c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est va du pied.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée.
Dans un tweet publié le 20 juillet 2024, le militant d'extrême droite Damien Rieu écrit à propos de la récente adaptation cinématographique du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney: haletant, incorrect, esthétique, enraciné, j'ai beau ne pas goûter à Niney le militant, son Comte de Monte-Cristo est un bijou. Offrez-vous une parenthèse de belles lettres, de France et d'élégance en allant le voir au cinéma sans vous poser de questions. Le florilège d'adjectifs choisis pour qualifier le film, haletant, incorrect, esthétique et enraciné, pourrait presque tous en soi mériter un long développement sur la façon dont il reflète les valeurs chéries par l'extrême droite. Mais pour aujourd'hui, arrêtons-nous sur le dernier, enraciné. L'adjectif est assez curieux. Son emploi paraît d'ailleurs à la fois étrange et fautif, puisque dans l'usage on dit souvent « être enraciné quelque part, dans un lieu », parce que le verbe est normalement accompagné d'un complément, ou bien il est pronominal, s'enraciner. On ne l'utilise pas seul. Dire d'un film qu'il est enraciné tout seul sans complément, au même titre qu'il serait esthétique, haletant ou incorrect, c'est faire un usage du terme qui est inhabituel, inattendu. Un peu comme si l'extrême droite tenait à montrer qu'elle avait institué l'enracinement, le fait d'être enraciné, en une sorte de valeur absolue. Le sens même de l'adjectif pour qualifier le film est assez mystérieux. Que signifie exactement pour le film Le Comte de Monte-Cristo d'être enraciné? La suite du tweet semble nous indiquer la réponse. Le Comte de Monte-Cristo défendrait la France, notamment par l'écriture de ses dialogues et son élégance, ou disons, un certain idéal de ce que serait la nation française, les belles lettres, pour l'extrême droite. L'histoire du Comte de Monte-Cristo lui-même, c'est-à-dire celle d'un homme condamné à l'exil parce que victime d'une terrible machination impliquant son meilleur ami, et qui revient pour se venger, peut elle-même être lue dans le sens de l'enracinement, si on désigne par là l'attachement à ses terres d'origine, à sa patrie, à ses proches, voire à son honneur et statut que l'on voudrait défendre. L'extrême droite s'est depuis longtemps complètement approprié cette notion d'enracinement pour désigner un attachement viscéral au lieu, à la terre, à une culture, à une identité. Par ce biais, elle a elle-même commencé à parler, ces dernières années, d'écologie. L'écologie d'extrême droite comporte souvent deux aspects, la priorité à la production et à l'économie locale, et la critique de la mobilité extrême dans le capitalisme, des voyages et de l'exode rural notamment. Ces critiques, fleuries de la défense des villages, des lieux ruraux, des terroirs, des savoir-faire, bref, des identités territoriales, expliquent en partie pourquoi et comment l'extrême droite perce dans les campagnes. D'abord, elle joue sur le sentiment d'abandon que peuvent ressentir éleveurs et agriculteurs devant les politiques publiques, notamment européennes. Ensuite, elle prétend démontrer comment l'écologie de gauche serait principalement urbaine, bobo, élitiste, déconnectée du réel, elle qui promeut par exemple une alimentation végétarienne et une philosophie antispéciste, qui sont vécues comme des attaques envers le mode de vie et les traditions d'alimentation des populations rurales. Mais ne nous y trompons pas. Ce sont avant tout des discours attachés à un nationalisme xénophobe qui caractérise l'extrême droite depuis longtemps. Ils parlent à ceux qui entendent défendre leur lopin de terre pour son usage exclusif contre toute forme de politique publique, y compris écologique, et à d'autres qui voient comme une menace l'arrivée dans leur quartier de population perçue comme des envahisseurs. Dans ces cas-là, la méfiance est de règle à l'égard des néo-ruraux, des riches parisiens, des anglais, des hollandais, des américains, qui s'installent dans le sud ou dans l'ouest. Mais elle s'applique surtout, en réalité, aux personnes racisées, identifiées comme immigrées musulmanes, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Bref, les gens dits « pas d'ici », qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas grandi là et qui n'ont pas de terre. Le sociologue Félicien Faury a effectué une longue enquête de terrain en région PACA dans laquelle il montre que la peur de voir son quartier ou son territoire ou sa terre changer ou être dévalorisé est, chez les électeurs du Front National, une peur motivée par le racisme à l'encontre des populations perçues comme des immigrés arabes ou musulmans. C'est le cas lorsque des logements sociaux sont construits dans un quartier majoritairement blanc au départ, ou bien lorsque des classes moyennes de familles perçues comme ressortissantes d'une certaine immigration, africaine, maghrébine, déménagent dans un quartier résidentiel plus aisé. Il écrit dans « Des électeurs ordinaires », publié en 2024, « Chez beaucoup d'enquêtés règne en effet le sentiment de se faire rattraper peu à peu par les quartiers et leur population. » Monique, employée de 57 ans, locataire, qui n'a donc jamais eu les moyens de se payer la propriété, m'indique avoir déménagé à plusieurs reprises et avoir à chaque fois constaté des évolutions notables dans le lieu où elle vivait. Ces transformations sont perçues et explicitées avec des termes raciaux. La présence croissante parmi ses voisins de personnes qu'elle désigne comme arabes ou musulmanes, parfois en des termes plus insultants, ainsi que la disparition des commerces français dans les rues environnantes. Elle me dit scruter avec anxiété le changement du quartier où elle vit depuis 3 ans. Ici, au début, c'était bien. Il n'y était pas. Et puis ça a commencé. Et au bout d'un moment, j'ai vu les draps qui pendaient aux fenêtres, et je me suis dit, c'est fini. Elle envisage de déménager à nouveau, mais doute de se trouver un coin tranquille qui ne serait pas trop cher. En fait, c'est la question culturelle et identitaire qui structure le rapport à l'appartenance à un territoire pour les électeurs d'extrême droite. Il y a des populations qui sont perçues d'office, naturellement, comme non intégrables au corps national et donc aux frontières. Cette question des frontières structure elle-même le rapport à la terre. Il y aurait des personnes légitimes, du fait de leur race supposée, être sur le périmètre du territoire, et d'autres non. On parle du pays comme du quartier. Les frontières du « pas de ça chez nous » sont changeantes, comme celles de l'ethnie rejetée. En Nord-Vaucluse, en Provence, qui sont les gens d'ici prétendument défendus par Jacques Bompard, ancien de l'OAS ? Il y a 70 ans, on se méfiait des Espagnols et des Italiens. Aujourd'hui, c'est l'islamophobie qui est de mise. Ce racisme-là sous-tend notre pensée du territoire depuis longtemps, sans que de vraies politiques cherchent à le déconstruire. Il est la manifestation la plus virulente et régulière d'une logique exclusive qui rejette hors des frontières tous ceux qui ne pourraient prétendument pas s'assimiler au territoire, les gens pas d'ici, des Arabes jusqu'aux néo-ruraux. En fait, les syndicats d'agriculteurs de droite et d'extrême droite, comme la FNSEA et la Coordination Rurale par exemple, ne sont pas tant que ça des protecteurs de la terre d'un point de vue écologique et social. Leur idéologie agricole soutient l'empoisonnement des terres et accroît les inégalités entre agro-industrie et agriculteurs. Pour la militante rurale Juliette Rousseau, qui vit en Bretagne, que les propriétaires terriens racistes affirment qu'ici, c'est chez nous, ça leur permet surtout de ruiner le sol. Et si c'était cette vision nationaliste et capitaliste qui nous déracinait, au sens où c'est ce modèle qui fragmente les populations et détruit la terre et notre relation à elle. Comment repenser à gauche le sentiment de déracinement dont s'est emparée l'extrême droite, de cette peur de ne plus se reconnaître dans une communauté, dans une société française ou dans une société locale? Comment s'emparer de l'inquiétude de la disparition des chemins agro-pastoraux et de la construction d'autoroutes sur des terres habitées et cultivées? De la destruction des terres agricoles et de la pollution des cours d'eau par les pesticides. Ces inquiétudes rurales ne recoupent pas forcément des écologies de clochers réactionnaires et des préoccupations dites de plouc ou de pecno. Pour la gauche, l'enjeu semble donc être aussi d'apporter de vraies réponses aux ruraux, aux agriculteurs et aux éleveurs, et de contre-argumenter réellement en faveur des milieux ruraux et contre l'extrême droite qui prétend les défendre, en se réappropriant la question de l'enracinement, de l'appartenance à la terre, en les orientant sur les notions de partage, de l'espace, de vivre ensemble, plutôt que d'exclusion. En ce sens, il faut élaborer des stratégies pour sensibiliser les campagnes aux luttes contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, adapter les discours et les combats de gauche aux territoires ruraux. Car de fait, les campagnes, dans leur diversité sur le territoire, sont des lieux mixtes, et les stigmatisations et violences envers les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBT+, qui sont souvent bien présentes, mais moins visibles et médiatiques, ne prennent pas le même aspect qu'en ville. Le rapport à la lutte et aux idées politiques dans les campagnes est donc différent. La gauche doit prendre acte de ces différences des territoires ruraux, par exemple ne pas abandonner les discours antispécistes, mais plutôt les délayer, accepter qu'ils ne sont pas en l'état recevables par ces milieux, ou ne sont pas les réponses qui paraissent les plus adaptées aux mutations actuelles des territoires ruraux. Il y a en revanche des façons de penser l'attachement à la terre, la ruralité, le territoire, la tradition, le rapport aux êtres vivants qui peuplent les milieux naturels, qui sont fondées sur le partage, la communauté, l'écologie, l'autonomie, la responsabilité et l'accueil, qui ont été trop délaissées à gauche. Il est urgent de les réinvestir, sinon ces territoires seront abandonnés à l'extrême droite. Dès le début du XXe siècle, c'était déjà une inquiétude de la philosophe Simone Weil, à ne pas confondre avec son homophone Simone Veil, la femme politique, dans un ouvrage intitulé « L'enracinement » publié en 1949. Elle explique que le risque qu'encourent le marxisme et le socialisme de l'époque est de s'adresser exclusivement aux classes ouvrières urbaines en négligeant complètement les paysans et le monde rural. Ce sentiment d'exclusion des ruraux, notamment de l'instruction publique ou universitaire, qui a toujours eu tendance à ignorer les cultures et les réalités locales, représentait selon elle un vrai danger, puisque les paysans pouvaient dès lors se sentir méprisés, ou du moins abandonnés, alors que leur métier est essentiel à la vie du pays. Ce clivage, plus ou moins fort, entre une gauche intellectuelle et un monde rural délaissé, court depuis donc au moins un siècle. Comment l'expliquer ? En un sens, la gauche, historiquement et depuis l'apparition du communisme, s'est construite sur un idéal pacifiste internationaliste, comme l'illustre le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Elle a peut-être davantage basé ses analyses sur la classe sociale, puis la race, puis plus tard le genre, plutôt que sur le sentiment d'ancrage ou d'appartenance à une terre, à l'enracinement dans un lieu. On pourrait même dire dans un terroir, c'est-à-dire une culture et une identité agricole, qui sont liés à une localité, à un écosystème particulier, avec son climat, son sol, ses rivières et ses paysages particuliers. Ce n'est pas vrai pour toute la gauche et encore moins pour tout le communisme. Ainsi, le communisme était souvent lié à un projet local d'implantation militante. Certains communistes russes parlaient même, avant la révolution russe, de « marche au peuple ». En dépit du caractère vertical et paternaliste de ce projet d'éducation rurale, il était bien là. Jusqu'à il y a peu, le Parti communiste était toujours bien implanté dans certains territoires ruraux, par exemple dans le Nord ou dans le Gard. Mais petit à petit, le fascisme français a récupéré la question de la terre, qui selon Pétain ne ment pas, pour en faire le fondement de son nationalisme, tandis que la gauche et la droite française dite républicaine se sont construites sur un État central fort. À cause de ça, aujourd'hui, l'enracinement et les discours sur les racines font donc plutôt écho dans les mentalités à 1. Une forme de communautarisme sectaire et fermé, je défends les gens de ma vallée, de ma famille, de mon clan contre les autres, avec une méfiance vis-à-vis de toute autorité venant de l'État, et 2. La promotion d'un immobilisme rétrograde et d'une mentalité fermée, c'est-à-dire empêcher la mobilité sociale, par exemple empêcher les gens de quitter leur campagne, les assigner à une identité, à une fonction, à un métier, à un destin dont ils ne pourraient pas se soustraire. Bref, promouvoir une forme d'intolérance, de manque d'ouverture au monde, qu'on associe au monde rural, et qui pourrait conduire au racisme et à l'homophobie. C'est la peur urbaine des ploucs, ces gens qui, en ne sortant pas de chez eux, défendraient sans aucune nuance la voiture, la viande, l'alcool, etc. Quand on y pense, pourtant, la promotion inverse de l'ouverture à l'international ou des voyages en sac à dos pour voir du monde, ouvrir son esprit, etc. sont en fait un peu des valeurs capitalistes qui se déguisent en des valeurs humanistes, la tolérance, la découverte de la différence, etc. L'idée est qu'il faut vivre le maximum d'expériences en un minimum de temps, mener la vie la plus intense et la plus mouvementée possible, ne pas rester sur place. Donc en fait aussi dépenser un maximum d'argent, consommer le plus possible, et surtout ne pas prendre le temps de rester en un lieu et en un temps. Ainsi, toute une part de la gauche, la plus représentée, la plus médiatisée, la plus urbaine aussi, n'a pas toujours su adapter son discours au monde rural, et a abandonné les notions d'appartenance à des lieux en délocalisant ses pratiques politiques. Sans doute ne prend-elle même pas assez en compte la différence géographique qui existe entre un urbain et un membre de la France dite périphérique, ou de la France des territoires, pour reprendre les termes désuets des géographes. Par exemple, le courant qu'on appelle intersectionnel à gauche est fondé sur l'idée que les personnes discriminées dans nos sociétés vivent toutes au croisement, à l'intersection entre plusieurs identités et systèmes de domination, de genre, de race, d'orientation sexuelle, etc. Être une femme noire de banlieue est différent d'être une femme blanche parisienne. De la même façon, être une femme arabe chrétienne est différent d'être une femme arabe musulmane. Être un homme gay et blanc, différent d'être un homme noir et hétérosexuel, etc. Pourtant, le clivage ville-campagne semble parfois sous-estimé, alors qu'il s'agit d'un facteur identitaire marquant et stigmatisé pour les populations. Être issu du monde rural ou périurbain par rapport au fait de venir d'une grande ville, c'est pourtant avoir en commun des expériences comme celle de la contrainte de passer son permis à 18 ans et de posséder une voiture individuelle très tôt pour aller travailler et avoir une vie sociale. C'est avoir un seul bus de ramassage, parfois très tôt le matin pour se rendre dans son établissement scolaire. C'est ne pas maîtriser les us et coutumes liés au transport en ville, etc. La page de même décentralisée pour provinciaux et francophones oubliés, créée en 2018 et arrêtée récemment, a d'une certaine façon aussi mis le doigt avec humour sur ces expériences qui sont en fait celles de la stigmatisation de ce qui vient de ce que certains parisiens appellent la province. Des façons de faire, des habitudes de langage, des modes de pensée qui relèveraient du plouc, du pecno, bref, d'un manque d'urbanité, de modernité. Ces stigmatisations sont manifestes d'un manque de respect et de représentation des territoires français dans leur diversité, existant en dehors de grandes villes. Bref, l'attachement à des territoires, et surtout une redéfinition de l'enracinement, sont peut-être encore des sortes de points aveugles des débats à gauche à l'heure actuelle. Pour réduire le sentiment de fracture territoriale, peut-être faudrait-il aussi passer par une redéfinition, une resémantisation, une resignification positive, progressiste de l'enracinement. Montrer combien l'enracinement, l'attachement à des lieux, à certaines traditions, est un besoin fondamental pour les êtres humains, et ce, sans tomber dans la défense bête et sans nuance de la corrida ou du « chacun fait ce qu'il veut chez soi ». Dans son texte sur l'enracinement, la philosophe Simone Weil écrit « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Appartenir, se sentir intégré et participer en tant que membre actif au sein de plusieurs communautés, par exemple son village, mais aussi son école, sa vallée, une région au sens large, sa nation, puis au-delà l'Europe et le monde, voilà ce qui définit l'enracinement pour Simone Weil. Être membre de communautés de plus en plus larges, qui sont comme des cercles concentriques, avec l'idée que c'est d'abord par le local, c'est-à-dire par l'intégration dans un lieu, dans une culture, dans un patrimoine, dans une vie politique locale, qu'on y arrive. Cet enracinement ne veut pas dire cautionner et conserver toutes les pratiques d'un territoire. Il faut accepter par exemple que les territoires de montagne doivent sortir du modèle du tout-ski, rendu caduque par le réchauffement climatique. C'est là la différence entre l'enracinement qu'il faudrait promouvoir et l'enracinement promu par l'extrême droite. L'enracinement de l'extrême droite est essentiellement exclusif et défensif. Il fonctionne sur le rejet de l'autre, sur la préservation des frontières, sur un refus du changement, sur une injonction qui est celle du chacun chez soi. L'enracinement à gauche est essentiellement inclusif. On peut faire partie intégrante de plusieurs lieux, de plusieurs milieux. Le géographe Mathis Stock parle par exemple de polytopie, du fait d'habiter dans plusieurs lieux. Du moment qu'on s'y sent intégré, qu'on peut y participer activement, et surtout qu'on peut les protéger en tant que bien commun. Par exemple, qui se sent intégré dans la vie politique locale lorsque les conseils municipaux ont encore trop l'usage de se faire de manière confidentielle alors qu'ils sont censés être ouverts au public? D'accord, mais pourquoi faudrait-il se réapproprier le concept d'enracinement et surtout faire émerger un débat sur l'enracinement? Parce que le constat de la situation inverse, celle d'un déracinement collectif, d'une absence ou d'une réduction de participation et d'intégration dans ces lieux de vie, source de souffrance, est bien réel. Nous faisons des expériences de plus en plus normalisées de déracinement, c'est-à-dire l'expérience d'une mobilité et d'une rapidité accrue, mais encore celle de la perte de repères, de stabilité, et celle aussi, notamment pour les jeunes, de l'arrachement à un milieu connu, de la séparation ou des conflits générés par les écarts de milieu, par exemple dans les relations familiales, amicales ou encore amoureuses. Citons quelques expériences communes de déracinement pour montrer l'ampleur du problème. D'abord, la multiplication des attaches identitaires qui se font souvent de manière rapide, insuffisante, parce qu'il y a une véritable injonction à la mobilité. Ainsi, lorsqu'il faut déménager pour ses études, En quittant par exemple un milieu rural, on peut vivre l'expérience d'un déracinement. On ne se reconnaît ni totalement dans un milieu étudiant urbain parfois woke, sensibilisé au féminisme et aux questions LGBT, ni totalement dans le milieu rural qu'on vient de quitter et qui semble aux antipodes de ces nouvelles valeurs promues en ville. D'autre part, la difficulté à se reconnaître dans des lieux ou des paysages de son enfance, parce qu'ils changent sous l'effet de l'urbanisation, de l'industrialisation ou de l'action du dérèglement climatique. La fonte des glaciers, la pollution des eaux, les phénomènes de sécheresse, etc. Une autre expérience commune est l'absence de participation à une vie politique locale ou communautaire parce que nos modes de vie sont individualistes et que nos institutions politiques nous ignorent en fonctionnant du haut vers le bas, en façonnant souvent nos lieux de vie sans nous consulter. Enfin, des phénomènes d'acculturation, c'est-à-dire des cultures locales ou familiales qui peuvent parfois être écrasées par les institutions scolaires au profit d'une culture nationale prétendument unifiée. Ces expériences disent quelque chose de la perte de nos facultés à faire communauté et à s'attacher, aussi bien à des lieux qu'à des groupes humains. Elles témoignent donc d'une façon de vivre des lieux et des expériences de façon bien plus individuelle que collective. En d'autres termes, si avant un seul lieu se vivait à plusieurs, aujourd'hui chacun a tendance à vivre plutôt pour soi plusieurs lieux. Ces mutations peuvent alerter sur nos capacités à prendre soin. Prend-on aussi bien soin de ce que l'on garde pour quelques semaines, quelques années, pour toute une vie ou pour des générations à venir? Prend-on soin de la même façon d'une maison que l'on garde pour un an que d'un endroit que l'on veillera toute une vie? Fait-on pousser des fleurs dans un jardin que l'on quitte dans 6 mois? Dans quelle mesure peut-on exiger le soin d'un appartement qui n'est pas à nous? Nos déracinements sont liés à nos façons modernes d'habiter ou de traverser les lieux, façonnés par cette ultra-mobilité, la propriété privée des particuliers et des entreprises qui accaparent les terres, la concentration d'activités de valeur dans les métropoles, l'injonction au voyage à l'international, etc. L'expérience du déracinement serait plus que jamais réelle. Simone Veil alertait sur cette perte du sens des lieux et des communautés il y a presque un siècle, et son constat garde sa pertinence. Même face à la crise écologique, l'idée qu'il faille réapprendre à s'ancrer, s'attacher à des territoires pour les protéger, non pas des étrangers, mais des attaques qui peuvent les faire disparaître, est essentielle. Et si l'enracinement pouvait se penser comme un dialogue avec les milieux naturels, une interdépendance réciproque qui appelle des égards, du respect, plutôt qu'une défense de ses terres, de sa liberté de faire ce qu'on veut, sur des terres dont on aurait la propriété exclusive, sans prise en considération du fait que la pollution des sols, par exemple, touche tout le monde. Et si l'enracinement, loin d'être une défense des murs, des frontières, de sa propriété, de sa culture, était la défense, le soin et l'attachement aux biens communs, universels comme l'eau, la terre, les services publics, etc. Nous proposons maintenant un double épisode sur la notion d'enracinement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous traiterons du problème du déracinement, de son caractère général dans nos sociétés et de ses causes profondes. Et dans un deuxième épisode, nous réfléchirons aux solutions et aux façons de se réenraciner dans nos lieux, dans nos espaces de vie, dans la vie politique. Ces épisodes ont été coécrits et co-réalisés avec Magali Tritot-Maurice, qui y interviendra. Elle est doctorante et enseignante entre les universités de Toulouse et de Bourgogne, spécialiste des littératures locales et des langues minoritaires, et elle travaille sur la question de l'attachement au lieu dans la littérature. Merci à elle pour sa participation. Vous écoutez les Va-nu-pieds et aujourd'hui nous allons parler du déracinement.
Au seuil de l'ouvrage Cultiver l'appartenance, ou Belonging en anglais, publié en 1990, l'écrivaine universitaire et militante noire américaine Bell Hooks, écrit « L'idée de lieu, d'un endroit auquel on appartient, est un éternel sujet de conversation pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons savoir s'il est possible de vivre paisiblement sur Terre. » Tracy Chapman chante « I wanna wake up and know where I'm going ». Encore et encore, à mesure que je voyage, je suis sidérée par le nombre de citoyens et de citoyennes de notre nation qui se sentent perdus, désorientés, dépourvus de perspectives, qui ont l'impression de ne pas réussir à voir où mène leur trajectoire, qui ne parviennent pas à savoir où ils et elles vont. Beaucoup de gens n'ont pas le sentiment d'appartenir à un lieu donné. Comme beaucoup de mes contemporaines, j'ai eu très envie de trouver ma place en ce monde, d'éprouver le sentiment d'être arrivée quelque part, d'avoir le sentiment d'être liée à un endroit. L'histoire personnelle et collective racontée par Bell Hooks est celle de déracinements répétés, à la fois géographiques et socioculturels. Depuis son mode de vie à elle, ex-rurale devenue universitaire écrivaine très mobile, au mode de vie de ses grands-parents, paysans noirs du Kentucky, héritiers du passé agraire et rural des Noirs du Sud. D'abord, elle raconte les migrations noires massives qui ont succédé à l'abolition de l'esclavage dans le Sud américain, qui s'est faite lentement et progressivement. Les paysans noirs des champs de tabac, de coton et de maïs du sud ont ainsi migré vers le nord, les villes et les usines. Et s'il s'agit d'un moment clé d'émancipation des populations noires, par lequel elles ont eu l'espoir d'échapper à la ségrégation et à la violence du racisme, Bell Hooks jette sur ce récit un regard plus nuancé, en expliquant que le salariat de misère dans les usines de Détroit, Chicago, New York, et la ghettoisation des Noirs dans des immeubles insalubres de quartiers périphériques avait exposé ces populations à d'autres formes d'exploitation et d'asservissement, et à un déracinement multiple. Pour Bell Hooks, nombreux sont ceux qui y ont perdu des repères géographiques. Pour elle, les montagnes et le village du Kentucky. Un rapport à l'autonomie, puisque dans les champs où ils étaient paradoxalement réduits en esclavage, ils cultivaient pour autant, en ce qui concerne Bell Hooks, les fruits de leur subsistance. Et n'était donc pas dépendant de l'agro-industrie et de l'argent gagné. Mais aussi un rapport à la terre, puisqu'ils sont passés d'une connaissance fine et d'un amour de la terre dont ils dépendaient pour vivre, à l'oubli des pratiques paysannes et au détachement vis-à-vis de la nature environnante. Bell Hooks, qui a grandi dans la pratique de la foi chrétienne, considère que cet éloignement de la terre a aussi été vécu comme un exil spirituel qui l'a beaucoup affecté. La psyché noire a été meurtrie par le déplacement du sud rural vers le nord industrialisé, écrit-elle. Contre l'idée d'une pleine émancipation, Bell Hooks rappelle donc que les Noirs ont trouvé dans les villes du Nord, supposées progressistes, d'autres formes violentes de racisme et d'insécurité, différentes de l'esclavagisme du Sud, mais bien réelles pour autant. Dans son récit des géographies des populations noires, avant leur déplacement du monde rural du Sud des États-Unis au monde urbain du Nord, Bell Hooks retrace aussi leur déplacement forcé depuis l'Afrique, et donc remonte au commerce d'esclaves, qui montre les relations entre l'impérialisme et le colonialisme, et le déracinement. Bell Hooks fait remonter son récit à la façon dont les États-Unis et l'Europe, avant eux, ont construit leur puissance économique et la culture des terres sur la création de comptoirs et la chasse aux esclaves africains. Leur déracinement commence par les institutions coloniales, par la confiscation de leurs terres, se poursuit par leur constitution en esclaves dans une société construite sur un racisme structurel qui condamne les Noirs américains à n'être jamais considérés comme chez eux, là où ils ont pourtant façonné les terres du pays. Le racisme colonial est un cas d'école, un cas exemplaire du déracinement. Dans un livre intitulé « Pour une écologie pirate », Fatima Wasak, militante écologiste et antiraciste en Seine-Saint-Denis, parle des populations racisées qui habitent les quartiers populaires comme des personnes privées de sol, d'ancrage, par un ensemble de, je cite, « processus reconduits de génération en génération qui en font des sans-terre et donc des sans-pouvoirs. Tout est fait pour que ces populations ne s'ancrent pas dans cette terre européenne et pour les condamner à l'errance. Mille frontières physiques et symboliques les y contraignent. Tu n'es pas d'ici, tu n'es plus de là-bas, tu es du nulle part. » Même aux enfants et petits-enfants nés ici et qui ne connaissent pas d'autres terres, on répète qu'ils sont étrangers, qu'ils ne sont pas chez eux, pas à leur place, qu'ils n'ont pas le droit de circuler librement, qu'ils doivent montrer leurs papiers comme s'ils passaient la douane, alors qu'ils ne font que discuter au pied de leur immeuble. Fin de la citation. Si donc les expatriés blancs, bourgeois, qui partent vivre à d'autres endroits du globe, ont la possibilité de circuler et de ne pas avoir honte de leurs racines, ceux qu'on appelle plutôt les migrants, migrantes, immigrés, étrangers, étrangères, ont plutôt à connaître un double déracinement, une double impossibilité d'être chez soi, ni là où ils vivent, où ils sont assignés à l'étrangeté, ni là où ils ont leurs racines, a priori, où ils sont dépossédés de moyens de subsistance et d'autonomie. Dans un petit ouvrage qui s'intitule « Où atterrir ?», le philosophe Bruno Latour, qui pense l'écologie comme un problème politique global, écrit ironiquement qu'aujourd'hui, ce qui a été de tout temps le problème des colonisés, l'absence de sol, vient aussi toucher les privilégiés, les héritiers des colons, nous les occidentaux. Qu'entend-il par « absence de sol » ? Pour les descendants des colonisés, c'est l'état de dépossession de terres, d'acculturation, d'obligation de migration. Ce sont les migrants sur la Méditerranée. Et c'est aussi une crise physique et morale qui vient affecter aujourd'hui les Occidentaux. D'un point de vue physique, l'Occident va aussi voir venir les migrations climatiques à cause de la montée des eaux et les dérèglements de nos sols, sécheresse, modification du climat. Bref, nous aussi, nous sommes peu à peu dépossédés de nos moyens de subsistance. Mais cette absence de sol est aussi morale. L'anxiété, le sentiment d'impuissance, de manque de sens, de flotter dans le monde, est aussi une désorientation psychologique profonde. Ce sentiment de désorientation, de difficulté à trouver sa place, celle qui fasse sens, est au cœur de nombreuses réflexions et récits contemporains. Bell Hooks écrit elle-même qu'en tant que femme devenue intellectuelle, elle s'est retrouvée exposée à cette perte d'orientation et de sens parce qu'à travers ses déplacements, elle n'a jamais ressenti la certitude de vouloir rester à un endroit, de s'y sentir appartenir. Elle a, comme d'autres, à la fois changé de milieu social et géographique. En Californie, écrit-elle, parler la douce langue vernaculaire noire du Sud, qui constitue notre langage de tous les jours, faisait de moi l'objet d'une attention malvenue. En peu de temps, j'ai appris à changer ma façon de parler, à dissimuler les sons et les cadences du Kentucky, jusqu'à les transformer en une voix intime qui ne pouvait être entendue que par des gens pouvant la comprendre. Cela a été pour moi un moyen d'éviter d'être assujetti par les hiérarchies géographiques qui m'entouraient et qui considéraient ma campagne natale comme arriérée. C'est au cours de ces années de fac qu'est apparu dans mon cœur et dans mon esprit ce sentiment de scission qui a caractérisé ma vie dans tous les endroits où j'ai vécu, en Californie, dans le Wisconsin, dans le Connecticut, dans l'Ohio, dans l'État de New York. Au fond, je me voyais comme une fille de la campagne, comme le produit excentrique d'une perception et d'une sensibilité forgée dans le coin reculé du Kentucky. Pourtant, dans la vie que je menais, c'était une autre éthique, d'autres croyances, d'autres valeurs qui régissaient mon quotidien. Avec le temps, l'esprit fragmenté qui avait fini par constituer mon paysage psychologique a commencé à s'effilocher. Fin de la citation. Les moqueries sur l'accent, la difficulté de se reconnaître et de s'orienter, le sentiment de décalage de valeur ou de solitude sont des traits qui reviennent dans les expériences de déracinement. Ainsi, dans ses ouvrages, Annie Ernaux, fille d'épicier normand, raconte l'expérience de son passage dans l'autre monde, le monde urbain, bourgeois et intellectuel des classes supérieures et des enseignants. La sociologie appelle celles et ceux qui changent de classe sociale et qui se retrouvent donc tiraillés entre leur classe d'origine et leur nouvelle classe, des transfuges de classe. J'ai l'impression que le sentiment de décalage ou de désorientation vient se loger dans des habitudes du corps, des habitudes de paysage. Se sentir déraciné, ça peut être aussi suite à une mobilité voulue, au sens très large. Changer de fréquentation, de lieu, d'habitude, de rythme de vie, mais aussi de langue ou d'accent. Ou encore le simple fait de passer d'une ville moyenne où tout peut se faire à pied à une grande ville où cela peut être plus difficile si l'on manque de temps. Ou inversement. Si vos parents ou vos cousins ne sont pas des citadins, ils seraient sans doute totalement déboussolés par le métro londonien, l'aéroport d'Amsterdam ou par les 44 quais de la gare Montparnasse. Parfois, on peut même se sentir déraciné chez soi, lorsque plein de proches ou d'amis déménagent dans une autre ville. Et combien de personnes âgées peuvent par exemple se plaindre de changements liés à l'industrialisation dans leur commune, la disparition des commerces de proximité au profit des hypermarchés de périphérie, ou la transformation de leur village en banlieue dortoir, c'est-à-dire dont toute la vie sociale et économique a été absorbée par la ville d'à côté. Dans un petit livre vibrant intitulé « La vie têtue », dont il a déjà été question dans l'épisode sur les fantômes, L'écrivaine Juliette Rousseau explique qu'elle est revenue dans sa maison natale pour l'expression des saisons et le retour des hirondelles qui la lient à sa sœur. Mais l'agro-industrie détruit la forêt, les champs, et le dérèglement des saisons inquiète le retour des hirondelles. Le déracinement est une expérience multiforme à laquelle nous sommes toutes et tous vulnérables à différents degrés. C'est une expérience de modification brutale ou progressive d'arrachement à sa culture, à son lieu, à ses familiarités, usages, réflexes, croyances. Je me souviens de l'oubli. Je me souviens d'un passé tel qu'il a été oublié. Un accent fabulé qui n'arrive plus à fabuler avec les hommes. Finir par être en vacances chez soi. Quand un moment dans la vie tout se décale, forcément ça se décale. Ce refus intérieur, poussé dans ses retranchements. Davantage qu'un rejet extérieur imposé. Sa vie. Et alors, tout est à refaire. Couper l'épine, couper le « il y a longtemps de tout ça ». Mais que faire de la brume, des débris sonores, du lointain, du bétail, de ce qui inspire chaque parcelle de ma poésie, de ce qu'on arrache à l'existence, s'existera plus qui dit. Des villages sur un plateau ondulé, du Bartas et du Lietch, de Miladou et de Macarel, de celle qui dit qu'elle a tombé quelque chose, de celui qui dit que ça laisse pente, de l'odeur des châtaignes grillées dans la machine du grand-père en plein froid d'hiver, de sa dernière tarte aux pommes. Hortense Rénal, Ruralité. Si les expériences de déracinement sont multiples et partagées, nous pouvons identifier quelques causes communes pour les expliquer. Nos recherches et nos lectures nous ont particulièrement concentrés sur le cas de la France, en particulier des régions métropolitaines. Dans son texte « L'enracinement », la philosophe donc Simone Veil explique que le déracinement est souvent lié à la conquête, à la colonisation et à la centralisation, c'est-à-dire à l'imposition d'un pouvoir vertical, central, extérieur aux réalités locales, qui provoque un phénomène d'acculturation, de changement de culture. Lorsqu'un territoire est colonisé ou conquis, une nouvelle culture vient brutalement s'imposer à une autre, et entraîne la disparition d'art, de manière de faire, de manière de parler, ce qui peut rendre nécessaire l'exil, modifier des paysages parce que les terres sont accaparées, détruites. Pour des membres des sociétés comme celle de la France, façonnées depuis 10 générations par l'État-nation, il semble évident, naturel, que ce soit la nation qui fasse la communauté, la référence de l'ancrage. On parle de société française, de nation française, pour parler de notre communauté culturelle, dans les discours politiques. C'est que notre culture est celle de l'État-nation, un et indivisible, et que nos façons de penser sont façonnées par cette politique nationale. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il n'en est pas ainsi partout sur le globe. On a intégralement confié à l'État la mission d'assurer une continuité, une consistance dans l'espace et le temps aux citoyens, citoyennes. Cet État-nation, autour duquel nous devrions faire communauté, a été la principale cause d'un sentiment de déracinement. L'idéal universaliste et les processus de centralisation, d'uniformisation, de la langue, de la culture ou de l'instruction nationale, ont progressivement contribué à l'effacement et au déclin des cultures et des langues régionales. La politique de centralisation a, par exemple, eu des effets sur tout le patrimoine immatériel. Des chansons traditionnelles, pour dire le travail, la fête, l'amitié, l'amour, le deuil, des façons de danser se sont perdues, parce qu'elles ont été honteuses et n'ont pas été reproduites. Les programmes de l'éducation nationale, avant de l'instruction publique, exigent de s'intéresser prioritairement à la culture nationale plutôt que régionale. Et dans le cas de la littérature, des textes paysans comme ceux de Rétif de la Bretonne sont déclassés comme régionaux, tandis que d'autres sont élevés au rang de trésor national, de canon. L'universitaire bretonne Maneg Thomas explique dans un ouvrage que le qualificatif de littérature régionale engendre une dévalorisation de ce qui est étiqueté ainsi, et connote une réduction du champ d'intérêt des œuvres concernées à la région à laquelle elles se rattachent. Comme si, donc, les textes de littérature bretonne ne pouvaient intéresser que les Bretons. Alors que le canon littéraire transmis partout à l'école est, à de rares exceptions près, celui d'écrivains parisiens, qui sont par contre, eux, supposés intéresser toute la nation. Tout se passe comme si, je la cite, « toute appartenance à un lieu démonétise de fait toute tentative d'être reconnue comme un styliste ou comme un écrivain d'avant-garde. » Une littérature en français, urbaine, parisienne, industrielle, a d'abord été valorisée, Victor Hugo, Zola, Proust, et instituée comme étant la littérature française, pendant que les littératures dites régionales, paysannes, de terroir, étaient rayées de la carte, ou bien récupérées pour instituer des folklores régionaux figés et réducteurs. Cette politique de centralisation de l'instruction a eu pour effet de provoquer un sentiment d'acculturation dans beaucoup de régions françaises. Dans les régions où l'acculturation est la plus ancienne, les références régionales ne sont pas vécues sur le mode de la perte et peuvent être perçues comme désuètes ou folkloriques. Mais dans certains coins de Bretagne, d'Occitanie, de Corse, de Catalogne, des gens vivent toujours cette acculturation comme un déracinement, un traumatisme, et luttent pour qu'il soit possible pour eux de vivre ce qui leur a été transmis et à quoi ils sont attachés. La France se réclame donc d'un modèle dit indivisible, mais à quel prix ? Car cette indivisibilité est loin d'avoir été obtenue sans violence. Le breton, le gallo, l'occitan, l'alsacien, l'arpitan, le picard, le normand, le poitevin et j'en passe, ont quasiment disparu ou bien sont décrits comme des langues en état fragile ou précaire par l'Observatoire des langues. Ce parce que la nation a entendu créer une culture française unifiée, parisiano-centrée, au sein de laquelle les petites différences sont valorisées seulement si elles sont divertissantes, mineures et maîtrisables, comme les costumes et les danses traditionnelles, ou bien si elles ont assis un tourisme culturel, artisan, gastronomique, pas forcément représentatif de la réalité régionale. Certains produits aujourd'hui sont vendus et plébiscités pour leur ancrage local sur les marchés provençaux. C'est particulièrement frappant dans la gastronomie en France. Pour le dire de façon caricaturale, on valorise les vins et les fromages d'un terroir, on sanctifie des AOP et des cépages pour leur caractère immuable, authentique, régional, traditionnel, mais on a détruit des langues parce qu'elles étaient locales, ridiculisé des danses parce qu'elles appartenaient à un lieu. Notre culture érige donc la valeur de certains produits sur la singularité de leur ancrage local, sur la particularité d'un terroir millénaire, mais pour des raisons économiques. En fait, la langue française n'est majoritaire sur le territoire que depuis un siècle. Pour y parvenir, il a fallu acculturer les personnes qui parlaient en dialecte ou patois, selon le mot à l'usage bourgeois ou parisien péjoratif. En 1794, l'abbé Grégoire, l'une des principales figures de la Révolution française et de la République, la première, publie un manifeste intitulé « Relations sur la nécessité et les moyens de détruire les dialectes et d'universaliser la langue française ». L'idée républicaine française, c'est une nation, une langue, pas de particularisme. Et ce, dans l'idée que l'État-nation devait être fort. Ainsi, bien plus tard, le président Pompidou martèle-t-il en 1972 « Il n'y a pas de place pour les langues et les cultures régionales dans une France qui doit marquer l'Europe de son sceau ». Or, ces particularismes régionaux étaient les repères existentiels des diverses populations françaises. Pour elles, leur langue n'était pas une périphérie, mais leur façon de vivre le monde et de se comprendre avec leurs proches. C'est comme si on imposait à nos enfants, demain, de parler anglais ou russe à l'école et au travail, et que l'usage du français était puni et stigmatisé. Pour la discrimination sur la base des accents, on parle de glottophobie. Même Jean Castex, ancien Premier ministre, en a fait les frais. Ainsi, une langue et un accent sont une norme, en gros, plutôt l'accent parisien ou neutre. Et le reste des différentes façons de parler, dialecte, parler, accent et autres formes de mélange linguistique, argot, verlan, sont considérées comme marginales, anormales, déviantes. L'accent marseillais est souvent perçu comme vulgaire, l'accent alpin peut être vu comme rustre ou stupide. Les cas de translinguisme sont aussi décriés, ça veut dire dire le monde en deux langues, qui se mélangent et s'influencent, par exemple l'anglais et l'espagnol, ou Spanglish, ou le français et l'arabe. Pour nous qui sommes imprégnés de monolinguisme, il est important de rappeler que des pays comme l'Espagne se sont bâtis sur une idée de la nation qui confère plus d'autonomie aux langues et parlers régionaux, et laisse la possibilité théorique à ses citoyens, citoyennes, de parler leur langue maternelle. Leur langue propre, selon l'expression. Lengua propia. Dans des pays comme l'Inde, des discussions peuvent avoir cours sans problème entre deux interlocuteurs de langues différentes qui comprennent la langue de l'autre sans la parler. D'ailleurs, en France, on valorise uniquement certains bilinguismes, par exemple savoir parler anglais ou espagnol, et pas d'autres. Alors que la science montre qu'il est profondément enrichissant d'être capable de dire le monde dans différents systèmes de langues. En fait, la cohabitation entre différentes langues, différents accents, façonne et modifie forcément nos façons de parler. On peut sentir son accent changer au cours de sa vie, en fonction des lieux et des personnes que l'on fréquente. Le monolinguisme est plutôt une exception à l'échelle mondiale, et le plurilinguisme la norme. En Espagne, des sociolinguistes, donc des linguistes qui étudient les façons de parler des gens en fonction de leur classe ou de leur origine géographique, ont montré que l'impossibilité de parler sa langue ou son accent, sa stigmatisation, est douloureuse pour l'estime de soi et pour le sentiment d'appartenance. Ils parlent par exemple de discrimination linguistique, de culpabilité linguistique, pour désigner la honte que des locuteurs ou des locutrices d'une langue, ou bien porteurs, porteuses d'un accent minoritaire, peuvent ressentir en délaissant leur héritage culturel, familial. Contrairement à ce que le modèle universaliste français voudrait parfois faire croire, on peut à la fois cultiver l'attachement à ses racines et rester ouvert à l'altérité et au dialogue. Être dans un modèle d'unité, par exemple nationale ou fédérale, mais pluriel, une unité bâtie sur la coexistence et la culture des différences. On peut par exemple soutenir un pays laïque, mais qui tolère la diversité des expressions religieuses sur son territoire. Dans cette veine, l'écrivain antillais Édouard Glissant a fortement critiqué l'universalisme français, en montrant que cette valeur socle, à laquelle se réfèrent sans cesse les institutions républicaines françaises, cache en réalité l'uniformisation, la destruction de l'altérité, en fait un impérialisme culturel. Le concept de séparatisme, l'idée qu'il y aurait des communautés qui chercheraient à s'excepter du destin national, thème cher à la droite et à l'extrême droite, est donc un concept très propre au républicanisme français, qui voit comme une menace à l'unité de la nation toute pratique divergente de la norme instituée. Marine Le Pen, par exemple, est contre l'enseignement des langues régionales en France. Édouard Glissant a opposé à cette illusoire et dangereuse entreprise d'universalité l'idée de diversalité, qui prônerait la mise en relation harmonieuse des diversités culturelles, soit la recherche et la promotion du multiple au sein de l'unité et non la réduction du multiple dans l'unité. C'est que Glissant, en tant qu'écrivain qui a laissé derrière lui son pays d'origine pour acquérir la culture légitime et qui a été connu en écrivant en français, donc attaché de façon contradictoire à deux langues, deux cultures, a été pris lui-même dans cet impérialisme culturel qu'il a dénoncé, comme d'autres après lui de façon plus véhémente. La disparition des patois, des accents, des manières de faire rattachées à des régions, c'est en fait la disparition des pays. Les pays, paese en italien et en corse, país en occitan, langues dans lesquelles le mot a gardé un sens plus ancien. Les pays donc, c'étaient les espaces qui étaient investis, pas vraiment délimités, par les mobilités d'une société rurale. En gros, les bâtiments, fermes, maisons, commerces, les espaces communaux, garrigues, forêts, marais, et les chemins de transhumance, qui étaient les espaces où transitaient hommes et animaux, sur lesquels reposait la mobilité et la subsistance. Ce sont ces espaces qui circonscrivaient plus ou moins donc ces manières de faire, ces manières d'être ensemble, de parler, de chanter, de travailler la terre, de danser, de se reproduire, souvent très proches du pays d'à côté, etc. ce qui n'empêchait pas de se comprendre. En gros, l'horizon de temps et d'espace, c'était celui de la communauté, du pays, et puis des saisons aussi. Les mobilités vers l'extérieur étaient plutôt rares. Cela nous amène à nous interroger sur le deuxième facteur de déracinement, à savoir précisément l'injonction à la mobilité dans nos sociétés, qui a contribué à la disparition des pays, et qui fait que les gens s'éloignent de leur lieu et de leur communauté d'origine.
D'après le géographe Patty Stock, la condition des personnes aujourd'hui dans le monde occidental est celle de l'hypermobilité. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là. Il s'agit d'une mutation anthropologique profonde liée à l'émancipation des contraintes de l'espace. On peut voyager de plus en plus vite, de plus en plus loin, et c'est même l'ambition en permanence recherchée. Stock met en évidence un passage à un mode d'existence associé à un seul lieu, le mode de vie paysan qui a été celui de nos aïeuls partout dans le monde occidental, où la vie se déroule du début à sa fin dans le même village, et où la subsistance repose sur le travail de la terre que l'on habite, à un mode d'existence polytopique, mobile, traversé par plusieurs lieux, de résidence, de travail, de sport, de loisirs, de vacances, etc. Il montre que cela réorganise notre rapport à l'espace. On peut se sentir proche de lieux qui sont lointains, lointain de lieux proches ou de nos voisins, présent virtuellement à un endroit où on est absent. Cela fait aussi que les individus deviennent plus distanciés de leur lieu de vie, pour diverses raisons. Ils les traversent, alors ils semblent interchangeables. Ils peuvent en être exclus ou rejetés, alors ne peuvent jamais s'y sentir appartenir. Les lieux doivent devenir accessibles et désirables pour des touristes riches étrangers. Aller en boîte de nuit à Ibiza pour une nuit, aller skier à Chamonix pour la journée depuis Londres, au mépris du coût écologique de ses déplacements et de ses aménagements. Cette hypermobilité est fondée sur la conception libérale de l'individu, conçu comme un individu détachable, sans attache, indépendant et autonome, c'est-à-dire avec le moins d'engagement possible. Et c'est donc cette conception qui est à la source du déracinement. L'essor de figures parfois fantasmées comme celle du « digital nomade », ce jeune actif hypermobile et hyperconnecté, symbole de l'individualisme et de l'idéal d'indépendance, le montre bien. Le fantasme du libéralisme et du salariat, ce sont les individus détachables, c'est-à-dire sans lien, sans identité, sans attache trop résistante. La flexibilité, voilà la qualité principale du travailleur contemporain. Dans un article publié en 1984 et intitulé « The Procedural Republic and the Unencumbered Self », en français, la République procédurale et le soi désencombré, le philosophe dit communautarien Michael Sandel pose que la conception libérale de l'individu repose sur un double postulat. D'abord, le postulat des individus dits désencombrés, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas d'identité personnelle forte liée à des communautés plus ou moins grandes, enracinées dans une histoire particulière, familiale, sociale, culturelle. Et un postulat d'indépendance des sujets humains, c'est-à-dire l'idée que l'individu serait en quelque sorte seul responsable de ses qualités et de ses défauts, ne serait pas déterminé par son milieu. En d'autres termes, c'est l'individu autonome et indépendant qui est premier dans la conception libérale, et non le bassin culturel dans lequel il a été élevé. Cet individu autonome ne s'engage que par des contrats libres, et il peut les rompre à tout moment sans que cela n'affecte véritablement son être, puisqu'il est indépendant par principe. Or, nous dit Sandel, cette conception est une abstraction, une fiction. Elle ne repose que sur un artifice qui consiste à isoler les individus des communautés dans lesquelles ils sont nés et dans lesquelles ils évoluent, des engagements qui les lient à ces communautés et constituent un sentiment d'appartenance. Par exemple, si vous êtes employé depuis longtemps dans une entreprise ou un organisme, il est fort possible que vous vous sentiez lié à eux, par des formes d'engagement, légitimes ou non, ce n'est pas la question, qui ne sont pourtant pas inscrits dans votre contrat de travail. Bref, que vous soyez affecté par le destin d'un collectif dont vous êtes membre, parce qu'il a contribué à vous façonner. Peut-être que si vous travaillez dans une librairie associative qui galère à joindre les deux bouts, vous vous sentez enclin à faire plus d'heures, même bénévolement. Bref, vous vous sentez lié par des attaches communautaires, identitaires, qu'on appelle parfois un esprit de corps. En plus de nier les attaches communautaires, l'idéal libéral semble ne pas tenir compte du fait que les individus ne sont indépendants et autonomes qu'une partie assez négligeable de leur vie. Les enfants, les personnes âgées, les personnes malades, handicapées, etc. ne sont par définition pas autonomes. Elles dépendent des autres. Et nous passons en vérité notre vie à dépendre des autres qui nous entourent, donc de communautés et de cercles auxquels nous appartenons. En d'autres termes, si l'enracinement se définit par l'attachement à des lieux mais aussi par la participation à des communautés, à la vie politique à la fois locale, départementale, régionale et nationale, alors la conception libérale d'un individu indépendant, libre, sans attache et sans engagement, entre en contradiction avec cette participation et cet enracinement dans les communautés. Le philosophe américain John Dewey avait pris la mesure de ce problème dans les années 1930. Il proposait de refonder la définition de l'individu, non plus sur lui-même, mais sur la communauté, notamment politique, à laquelle il doit participer. L'individu, dans la conception de Dewey, se forme par l'expérience de la coopération et de la délibération collective, bref, par un exercice démocratique. Le concept d'enracinement est donc historiquement et philosophiquement un idéal profondément social, puisqu'il renverse l'idée libérale selon laquelle les individus précèdent les communautés humaines et les milieux dans lesquels elles évoluent. Pour résumer, les politiques de centralisation, d'impérialisme culturel, linguistique et l'inscription de nos sociétés occidentales dans un modèle libéral font que nous pouvons tous faire, à notre échelle, l'expérience quotidienne du déracinement. S'en inquiéter nous amène à nous indigner de toutes les entreprises d'acculturation, de colonisation, dont les formes les plus extrêmes liées à la puissance militaire, la guerre, la conquête, le génocide. La violence destructrice de l'État israélien à l'encontre des populations palestiniennes et des territoires où elles vivent, qui sont ravagés et confisqués, montre que les impérialismes justifiés par l'État-nation ont toujours cours, pas moins qu'avant, dans de nombreuses parties du monde. Le cas palestinien nous parle du besoin pour un peuple, dans sa diversité, d'un lieu pour vivre en sécurité et en liberté. C'est, pour reprendre la formule de Simone Veil, un besoin de l'âme humaine que celui de l'enracinement.
Lieux désastrés, terres abîmées, lieux quittés simplement traversés, alors que tout se passe comme s'ils pouvaient n'avoir aucune prise sur nous, que nous étions libérés de la façon dont ils peuvent influencer nos tempéraments, infléchir nos comportements. Les lieux agissent pourtant sur qui nous sommes, nous affectent et nous transforment. Nos façons de faire, de parler, de vivre sont dépendantes d'eux et des gens que nous avons fréquentés, parce que nos corps et nos repères sont habitués par l'environnement et peuvent l'être tout au long de la vie. C'est ce qu'un géographe, Olivier Lazzarotti, appelle la condition géographique de l'homme. Sommes-nous confortables, libres, heureux dans l'endroit où nous vivons? Ce sont les mots d'enracinement et d'appartenance qui nous permettent de nous poser la question, et ce sont ces mots qu'il faudra se réapproprier ensemble dans le prochain épisode.
Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à suivre la page Instagram de l'émission @lesvanupieds et à le partager sur les réseaux sociaux et à vos proches. C'était Magali et Benoît pour les Vanupieds et nous vous saluons.
Tantos, tantos vendrá la primo. Amai lupuli meste mai. Lumes de mai florisse grano, cad ob utum reprensa flum. Lus juvet scalans lacuisum, per la purta aluram. Farai pasieu certa la mieuno, che eu ne sui de din la tu.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est vanupié.